Partir à l'autre bout du monde ou vivre dans le pays voisin, l'expatriation reste une aventure à part entière. Être bousculé dans ses habitudes, s'adapter à un nouvel environnement, se réinventer professionnellement, se découvrir un peu plus chaque jour, à coup sûr, vous écoutez The Musette, le podcast des expatriés entrepreneurs. Bonjour à tous, je suis Adeline Verdier-Velten, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous allez découvrir des histoires de vie, d'envie, des témoignages de femmes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette parenthèse de vie à l'étranger. Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musettes, nos expatpreneurs aux quatre coins du monde. En mariant photographie ancienne, histoire et culture portugaise avec l'artisanat textile, Paula réalise une aventure entrepreneuriale originale et fidèle à ses valeurs. On sent chez Paula une forte volonté de revenir à ses origines et les faire revivre. Dans ce podcast qui lui est consacré, on parle enracinement, différences culturelles et de l'entrepreneuriat qui n'a pas d'âge. Venez écouter et découvrir la lumière qui se cache derrière Paula et son entreprise Loose Edition. Bonne écoute! Bonjour Paula, ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de The Musette.
Bonjour Adeline.
Alors, je suis très, très contente de faire encore une super interview entre Amsterdam et Lisbonne. Pour commencer, Paula, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, je m'appelle Paula Franco, j'ai 50 ans. J'ai quitté Lisbonne, j'ai quitté Paris autour des 30 ans. Et en fait, je suis maintenant résidente à Lisbonne depuis plus de 17 ans, voilà.
Eh ben alors justement, quand on a préparé cette interview, ce que je trouvais intéressant et voire marrant, c'est dans ta démarche d'expatriation, je dirais peut-être même d'immigration, je ne sais pas comment tu te sens.
De retour aux sources, je dirais. Voilà, plutôt, c'est ça. Retour aux racines, peut-être.
C'est ça, t'es d'origine portugaise et donc t'as grandi en France, comme tu le disais, et donc t'as décidé de revenir à tes origines. Tu nous expliques ce qui t'a amené à venir revivre ou vivre là-bas?
D'abord, je suis née en France, parce qu'il y a eu plusieurs générations, bien sûr, plusieurs types d'immigration de Portugais en France. Il y a ceux qui ont emmené leurs enfants. Mm-hmm. Moi, ce n'était pas mon cas. Je suis vraiment née en France. Je suis née dans une petite ville très bourgeoise, à côté de Paris, à 20 minutes de Paris. Et en fait, j'ai vraiment bénéficié plus, je dirais, de la culture française, puisque j'ai vraiment été immergée dans la culture française, beaucoup moins dans la culture portugaise, mais quand même, toujours, parce que mes parents, eux, ont toujours souhaité qu'on parle le portugais à la maison, contrairement à beaucoup d'autres de mes amis qui avaient le même background. Leurs parents, souvent, n'avaient pas cette exigence, mais mes parents l'avaient. Parce que pour eux, depuis que je suis née, le pont se faisait avec un retour tous les étés chez mes grands-parents maternels. Donc, tous les étés, moi, je venais passer 2 mois ici au Portugal pour connaître un peu ma famille.
Oui, donc la langue était importante pour eux. C'était un lien avec leur pays, quoi.
Bien sûr, la langue était importante parce que c'était un lien avec le pays et encore plus un lien avec la famille parce qu'ils n'auraient jamais été capables, parce qu'ils ne venaient pas, quand ils nous envoyaient, ils ne venaient pas bien sûr 2 mois, ils n'avaient pas toutes ces vacances, ils n'auraient jamais pu nous envoyer si on n'avait pas cette indépendance quelque part.
Oui, bien sûr.
Et si on n'était pas confortable avec le fait de nous retrouver dans un milieu différent et une langue différente. Donc voilà, donc en fait, on avait déjà cette routine, on va dire. Et puis, moi, simplement, j'étais dans le monde corporate. J'ai longtemps travaillé dans le monde corporate dans l'une des plus grandes boîtes de France, dans la cosmétique. Voilà, c'est un renommé. Et puis, en fait, quand on a eu septembre 2001, décidément, j'ai un peu de mal avec les dates, septembre 2001, chez moi, ça a vraiment réveillé des choses, ça a vraiment éveillé un questionnement nouveau sur la vie, le but de la vie, qu'est-ce que je fais de ma vie. Et puis, j'avais beaucoup de mal à passer à autre chose, à me dire qu'est-ce que je peux faire. Et je me suis dit que dans un premier temps, la solution était sans doute de prendre un congé sabbatique, de réfléchir. Et pour ça, bah, pourquoi pas retourner aux sources, pourquoi pas retourner aux racines et posément, je dirais, voir d'où je suis partie en quelque sorte, de quoi je suis faite. Mmh. Et puis surtout, découvrir finalement quelle est la part de chaque culture en nous, quelle est la part, de quoi on est fait.
Oui, oui, c'est ça, ton histoire, en fait.
Voilà,
ton
histoire, de quoi on est fait, mon histoire, voilà.
Mmh. Donc, alors, je vais revenir juste sur un point moi, qui est marquant, je trouve, dans ta décision de partir, c'est voilà, cet attentat du 11 septembre 2001. Toi, ça a été décisif pour toi, et en plus de ça, quand on en avait discuté, tu avais à l'époque, tu avais dans les 30 ans, si je ne me trompe pas, et tu avais une vie bien riche, etc. Et ça, ça t'a marqué, et tu t'es dit, bon, ok, allez, il faut que... Alors que tu étais vraiment, dans l'explosion professionnelle, tout marchait pour toi, et tu t'es dit, et ça t'a fait un choc, et tu t'es dit, ok, là, il y a un souci, quoi. Je ne veux pas que je fasse autrement.
Oui, véritablement, parce que, en fait, pour moi, le souci, c'est que depuis que j'ai commencé à travailler, je peux dire le nom de la boîte, c'est pas très grave, mais j'ai commencé à travailler chez L'Oréal, assez jeune, parce que, en fait, j'avais décidé de faire des études supérieures, mais courtes, donc j'ai commencé à avoir des stages très jeunes. Mmh. Et j'ai, par hasard, atterri chez L'Oréal en envoyant tout simplement une lettre. Mmh. Et en fait, j'ai commencé, j'avais 17 ans, à avoir mon premier stage et puis mon premier job d'été. Et puis, ça s'est enchaîné comme ça jusqu'à la fin de mes études. J'avais toujours ou un stage ou un job d'été là-bas.
Et, c'est même top.
Oui, c'était magique parce que même à ces âges-là, on gagnait bien. Et c'était pour moi, gagner tous ces sous, c'était vraiment incroyable. Mmh. Et puis, les gens étaient fantastiques. Il y avait vraiment encore une âme paternaliste au début, quand je suis rentrée. Mmh. Donc, c'était vraiment une super aventure. Mais très vite aussi, moi, j'ai commencé à me dire, mince, j'ai eu trop vite, trop de chance. C'est une boîte trop bien pour y être à 20 ans. C'est une boîte bien pour y être à 40 ans. Mais à 20 ans, il faut explorer, quoi. Donc, j'ai eu très vite cette sensation d'être un petit peu prise au piège, mais de moi-même, parce que ça te donne trop de sécurité trop jeune, en fait. Et ça tue un peu l'aventurière qui est en toi. Tes parents aussi, parce que tes parents te disent « Mais qu'est-ce que tu veux tester, essayer ? Tu ne te rends pas compte, c'est génial. » Bon, voilà, et puis voilà. Après, tu fais les choses de la vie, c'est-à-dire tu achètes ton premier appart, donc tu te dis « Ah, bah mince, je ne peux plus changer ma vie parce qu'il faut payer mes traites. » Bon, voilà, ça va très vite, quoi, en fait.
C'est là que tu te rends compte qu'avec cet attentat, la vie, elle est fragile, quoi, au final.
Voilà, et puis l'attentat arrive, et là, je me dis « En fait… » je suis pas dans le cadre que j'ai envie, quoi. J'ai envie d'être un peu plus, d'aller au-delà de tout ça. J'ai envie de savoir si vraiment on a besoin d'autant d'argent pour vivre, si vraiment on a besoin d'être à Paris, même si j'adore Paris, dans le sens où Paris, Londres, New York, ce sont des villes qui vont trop, trop vite, quoi. Donc, je pense qu'on a tous l'excitation de ces villes-là quand on est dans notre vingtaine. Mais quand on arrive à notre trentaine, on se dit « Ok, bon, ça, on l'a fait, c'est sympa, mais maintenant, on a peut-être envie d'autre chose, quoi. De Bali ou de… » Voilà, on a notre ouverture d'esprit à 30 ans qu'on n'a pas à 20 ans, quoi. Ça, on se change à chaque fois. En tout cas, moi, j'ai un changement très cyclique dans mes dizaines, donc forcément, voilà.
Ça marque. Non, mais voilà, je trouvais ça intéressant de souligner que tu as pris conscience, en 2001, que… Et que tu étais quand même jeune, quoi, de te dire, faut que je fasse quelque chose qui soit plus en phase avec moi. Donc, c'est hyper intéressant. Mais justement, pour revenir sur ton côté professionnel, tu avais une vie très riche, très intensive, je suppose, avec un rythme soutenu. Tu n'as pas eu peur de te dire, mais je vais lâcher tout ce rythme avec un peu d'adrénaline contre quelque chose de plus calme. Tu n'as pas eu peur de ce trop calme?
Un peu quand même. Surtout que quand je suis venue à Lisbonne, c'était quand même en 2004, le temps que je prenne ma décision et que je déménage, on était en 2004. Et c'était un Lisbonne complètement différent du Lisbonne d'aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode, tout ça, mais c'était une ville endormie, et encore, hein, bon, elle s'éveille bien sûr, mais elle est très décalée par rapport à beaucoup de capitales. C'est une capitale village, Lisbonne. Donc, en fait, au début, quand je suis arrivée, je connaissais absolument pas bien Lisbonne, parce que la famille, ma famille d'origine n'est pas du tout de ce coin-là. J'étais toute seule, vraiment toute seule, et je savais qu'en plus, j'étais pas forcément la personne qui serait non pas la plus bien reçue, c'est pas ça la question, mais il existe toujours un peu ce côté de reprendre une certaine légitimité sur ses origines, voilà, il y a quand même cette question. Donc je savais que ça serait pas quand même une aventure complètement légère, je savais qu'il y avait des défis. Et surtout, le calme, oui, parce que moi, je suis partie en congé sabbatique, donc il fallait que je me trouve un travail. Je me voyais pas en soi être sans rien faire, parce que je m'ennuie très vite. Donc, je me disais, oh là là, va falloir que je trouve un travail quand même, parce que mes économies font de vie. Mmh. Et puis, quoi ? Parce que je parle pas un portugais méga... Enfin, c'était pas un portugais très littéraire. Je faisais encore beaucoup de fautes quand même, parce que j'avais... un portugais plus oral qu'écrit. Mm-hmm. Donc, ça a été un vrai défi de me dire, comment j'aborde ce nouveau passage. Le calme, oui, non, parce que vraiment, je pense que j'ai vraiment préparé mon arrivée ici en me disant, il faut que je m'intègre. Donc, ma première démarche a été de partager un appartement avec deux personnes qui sont encore aujourd'hui des amis, parce que je savais que si je ne faisais pas cette démarche, je serais toujours coupée des Portugais. Donc, ma première démarche a été vraiment de faire ça. Ma deuxième démarche a été de reprendre des études en photographie ici au Portugal, dans une des plus grandes écoles d'art de Lisbonne. Donc, ça m'a permis aussi de m'intégrer avec des jeunes, je dirais, puisqu'ils avaient quand même plus la vingtaine que la trentaine. Et puis après, c'est deux petites communautés différentes, on va dire. Enfin, mes amis, plus après les jeunes étudiants d'art, m'ont chaque fois plus intégrée dans le milieu de leurs amis, de leurs sorties. Donc voilà, j'ai petit à petit gagné cette légitimité auprès des locaux. Et en parallèle, comme j'arrivais vraiment pas à trouver de boulot, soyons clairs, j'ai envoyé, je sais pas moi, 50 CV en un mois et j'ai dû avoir deux réponses, alors que je me disais, venant de Paris, L'Oréal, tout ça, ça va être facile. Non, pas du tout. Je me suis dit, mince, comment je pourrais faire ? Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de contacter la chambre de commerce française ici. Et de leur dire, je cherche du travail. Et en fait, il y a plein d'entreprises au Portugal qui cherchaient des gens qui parlent très, très bien français, qui ont la culture française. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier boulot. Voilà. Je suis passée par eux. Ça a été très rapide, en plus. J'ai atterri dans un milieu complètement à l'opposé de ce que je faisais, parce que j'ai atterri dans le milieu de la marine, de tout ce qui était le négoce du tourisme de croisière, donc tout ce qui avait à voir avec les bateaux, tout ça. Et c'était un monde à 99% masculin. C'était des Grecs qui géraient ça à Lisbonne, donc c'était très, très masculin, macho, tous les clichés qu'on peut imaginer. Donc, ça a été vraiment une aventure assez drôle, quoi.
C'est drôle. J'imagine, ça n'a pas dû être évident. Alors, attends, excuse-moi, on fait une pause. Mince, je suis en train de me rendre compte d'un truc. Excuse-moi, Paula, quitte pas. 1, 2, 1, 2. Super, ma voix n'est pas. Pourquoi le. Bah, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible. Mais non. Bon, écoute, c'est pas grave, je referai un montage sinon. Tu m'entends ?
Moi, je...
Je vois que tu parles.
Ouais, je vois tes petits...
Quand je parle, tu vois...
Là, ça y est, ça recommence, tiens. Tu as l'air de remarcher, là.
Sur moi ?
Ouais. Moi, je vois tes courbes recommencent à prendre.
Okay. C'est bizarre, moi, je ne comprends pas. Bon, c'est pas grave. Ok, bon, écoute, c'est pas grave. Voilà, je vais... On va refaire... Je fais 30 secondes de pause pour reprendre. Et... j'y vais. Et Paula, je voulais te demander, par rapport à tes parents, ça a été quoi leur réaction de te voir ? Bon, déjà, le fait de quitter L'Oréal, ok, c'est quelque chose, mais surtout de se dire, notre fille, elle repart au Portugal alors que nous, on l'a quittée.
Ah ben, ça a été un choc, vraiment. Ça a été un choc, et puis je pense qu'en plus, ce qui est très intéressant, c'est que de mon recul de fille d'immigrée, je dirais qu'il y a quand même toujours eu beaucoup de différentes écoles. Je dirais qu'il y a ceux qui se sont très très bien intégrés, ceux qui sont moins bien intégrés. Et moi, je peux considérer que j'étais bien intégrée dans la mesure où je me considérais même plus, beaucoup plus française que portugaise. Ouais. Et qu'en fait... j'avais une très grande affection pour mes origines, mais qu'il n'y avait absolument pas de remise en question pour moi. J'étais d'abord française, si je devais dire où je me sens le plus moi-même, j'aurais dit la France. Mais ce qui a changé, en fait, pour moi, c'est que j'ai vraiment vu ce pays évoluer, j'ai vraiment vu le Portugal évoluer, et j'ai vu que, justement, en fin des années 90, il y avait une qualité de vie au Portugal, déjà, qu'on n'avait pas en France, dans le sens où, en tout cas pas à Paris. Peut-être que si j'avais vécu dans d'autres villes de Provence, j'aurais pu dire « Oh, bah, je suis très bien ». Mais je me rendais compte qu'en fait, c'était quand même fantastique quand je venais l'été. Et moi, j'ai tout de suite… en fait, je me suis dit « il y a vraiment quelque chose à faire là-bas ». Mes parents n'avaient pas cette vision, parce que mes parents, je pense qu'ils ont continué à voir pendant longtemps… surtout ma mère plus que mon père, je dirais, mais ils ont continué à avoir pendant longtemps tout ce que la France leur apportait, que le Portugal n'avait pas ou n'avait pas pu leur apporter. Donc, eux voyaient plus le décalage que moi, je ne le voyais. Ou en tout cas, eux, leurs objectifs par rapport à la France étaient toujours différents par rapport aux miens. Et donc, eux n'ont pas senti de la même façon que moi cette évolution. Après... c'est évident que même quand moi je suis partie, la France était bien en avant sur plein d'autres choses que le Portugal. Donc pour eux, il y avait toujours cette sensation d'un retour en arrière, mais une régression, quoi. Revenir au Portugal, c'était en quelque sorte une régression. Et dans leur tête, ça leur faisait... Ça a été vraiment un choc parce que ça a été... ils n'ont pas dit « Oh, finalement, on a tout sacrifié. » Et puis, bon, c'est pas ça, c'était pas ce discours. Mais c'était vraiment le discours du genre « Mais est-ce que tu es sûr quand même, c'est un gros virage, tu quittes tellement de choses. Est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir avoir une bonne qualité de vie, avoir les mêmes choses au Portugal ?»
Là, je comprends. Voilà.
C'était un peu ça. C'était un peu ça.
Je comprends. Et si maintenant, je te demande si tu te sens plus française ou portugaise, tu dis quoi ?
Bah, maintenant, je dirais, je me sens plus moitié-moitié. Moitié-moitié, c'est-à-dire que, bon, au fond, j'ai toujours eu peut-être un caractère plus portugais, mais dans un sens, plus portugais dans le sens, j'ai toujours parlé très fort, j'ai toujours aimé la fête, à fond, j'ai toujours eu un côté bien latin, mais par contre, je suis très franche, parce que ça, je le sais, c'est mon côté français, c'est-à-dire je suis très directe, très franche avec les gens. Les Portugais n'ont pas trop cette façon de faire qui est d'être cash, comme on peut l'être en France. Même avec leurs propres amis, je pense qu'ils mettent toujours beaucoup plus de trémolo à dire les choses, quand ils les disent. Mais après, je me sens plus proche de la culture française aussi, parce que bien sûr, j'ai pas la culture portugaise télévisuelle ou cinématographique, ou il y a plein de choses que j'ai pas, que j'apprends, mais voilà, j'ai pas trop le temps non plus maintenant. Ouais, ouais. Je m'y intéresse quand même. Donc en fait, le plus drôle, c'est que mon mari est français, je l'ai rencontré ici. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, c'est quand même fou d'être venue ici pour quelqu'un de français. Mais malgré tout, ça fait beaucoup de sens parce qu'on se reconnaît, quoi. On se reconnaît on est plus proches, quoi. On a beaucoup plus de choses en commun. Voilà, voilà. En tout cas, dans mon cas, ça a été plus évident.
Mmh. Voilà. Et dans ces cas-là, et alors, quelle différence culturelle te marque le plus chez les Français et chez les Portugais? Donc, le côté, nous, les Français, on est assez francs, on y va direct, moins les Portugais, mais tu as d'autres choses en tête?
Ouais, bah en fait, ce que j'aime beaucoup chez les Portugais, d'abord, si je dois vraiment dire qu'est-ce qui me retient le plus dans ce pays, c'est quand même une très très grande gentillesse et humanité du peuple portugais. Mm-hmm. Ça, c'est le point numéro un. Mm-hmm. Et quand je dis ça, c'est sur des choses très basiques. Hein. Je vais donner un exemple. Un exemple très simple, c'est que parfois j'étais à Paris, je voulais juste demander un renseignement de rue, quelque chose comme ça, et je devais presque me mettre face à quelqu'un avant de réussir à stopper quelqu'un et lui poser une question toute simple, quoi. Ah ouais. J'avais l'impression que j'étais vraiment plus invisible à Paris. Et ici, il m'est arrivé d'avoir ma voiture qui ne démarrait pas. Et avant même que je me dise, bon, je vais sortir, demander de l'aide, tout ça, j'ai un petit monsieur qui me frappe au carreau, qui dit « Bah alors, ma petite demoiselle, ça démarre pas, machin. » Il appelle le voisin d'à côté, ils vont chercher des câbles, ils font tout. J'ai même pas, limite, besoin de demander quoi que ce soit. Donc, cette gentillesse et cette proximité, c'est quelque chose que je connaissais pas en France, en fait. Je le ressentais pas en France parce qu'on est dans un immeuble, on évite ses voisins, enfin, on leur dit bonjour en courant, la concierge, on sait qu'elle va nous occuper 20 minutes, c'est pareil, on évite pas mal, quoi. Bon, je sentais quand même que j'étais devenue très parisienne, hein, dans ma façon d'être. Hein. Je disais pas bonjour dans la rue en croisant quelqu'un. Quand je suis arrivée ici, on m'a dit plusieurs fois que j'étais mal élevée parce que je croisais des gens et je ne disais pas bonjour. Moi, je répondais à mes amis, mais je ne les connais pas, je ne vais pas leur dire bonjour. Et ils disaient, ben non, mais on dit bonjour aux gens de notre quartier. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Voilà, donc il y a vraiment une très grande humanité ici que je reconnais. Mm-hmm. Des Français, j'ai vraiment le manque d'échange sur plein de choses, que ce soit sur la culture, que ce soit sur la politique, que ce soit sur... le peuple français est plus affirmé, plus rêveur. Le peuple portugais est plus contenu, moins optimiste, donc plus contenu. Donc on a des échanges beaucoup plus liés avec les Portugais sur leur famille, leur vie privée, bizarrement. Mm-hmm. Chose qui ne se fait pas trop avec... les Français, mm-hmm. on ne parle pas en général, la famille, ça reste quelque chose de très privé. Après, voilà, les débats et les échanges, pour moi, sont toujours beaucoup plus intenses entre Français, je dirais. Ouais. L'autre grande différence, et ça, maintenant que Lisbonne a énormément de communautés, une grande communauté française notamment, j'ai beaucoup cet écho de tous mes amis français ici, qui se plaignent beaucoup de ne pas être reçus chez les Portugais pour dîner, alors qu'eux, parfois, font la démarche de les inviter. Okay. Ils sont très surpris de ne pas avoir le retour ou l'invitation de la part des Portugais à leur tour. Et moi, je leur ai dit, je pense que c'est vraiment quelque chose de très culturel, dans le sens où la maison, c'est la famille, d'abord, chez les Portugais. Ouais. Et puis, en fait, ils ont beaucoup ce côté « on sort ». Donc, pour eux, les amis, c'est dehors au restaurant. Et la maison, ça reste toujours un peu quelque chose de très, très sacré, quoi. De très, très protégé. Donc, effectivement, ça, c'est une grande, grande différence culturelle à la base. Et je dirais même pour tous mes amis ou non-amis français qui m'écoutent, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre du style « oh là là, finalement, on ne leur a pas plu » ou quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une démarche très culturelle. Comme aller comme aller déjeuner tous les week-ends chez les parents. Les Portugais ont encore beaucoup ça. C'est-à-dire que le week-end, c'est aussi très sacré famille.
Ok. Non, mais c'est intéressant tout ça. C'est bien, parce qu'on en sait encore davantage là, avec ton témoignage sur la différence culturelle qu'on n'imagine pas forcément. Donc,
Oui, parce que ça paraît un peu vieux jeu, forcément, ça a un petit côté, oh là là. Et moi, j'avais déjà cette routine à Paris, c'est-à-dire que les dimanches midi, c'était aussi sacré. Je déjeunais quand même, allez, on va dire à 90% avec mes parents. Et souvent, je sortais le soir en boîte la veille et je disais vers 2h, 3h du matin, oh là là, il va falloir que je rentre parce que demain, il faut que je me lève pour aller déjeuner chez mes parents. Et mes amis me disaient, mais c'est quoi ce délire? Tu vas déjeuner chez tes parents le dimanche? Je dis oui, parce que bah, voilà, c'est traditionnel, mais aussi j'aimais ça, quoi. C'était un peu le pont, la rencontre pour faire un peu notre débrief de la semaine, quoi.
Ah ouais, je comprends. Mais c'est joli en même temps.
On est encore très très famille chez les Portugais, soyons
clairs. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est bien parce que ça peut se perdre. Donc ça peut se perdre. Apparemment, aux États-Unis, ça se fait pas, tu vois ça.
Oui, bien
sûr. Manger ensemble, ça se fait pas. Tout ce cheminement de vie, je dirais, que t'as amené à lancer ton projet, donc Loose Edition ou Edition, je sais pas comment tu le dis bien.
C'est en espagnol. En fait, tu peux le dire en français ou en anglais même, je dirais.
Voilà. Alors, est-ce que pour ceux qui nous écoutent, tu peux nous dire qu'est-ce qui se cache derrière ce joli nom?
D'abord, louche, c'est la lumière. Mm-hmm. Donc déjà, j'adore le fait que ce soit un nom court. Et la signification du nom, pour moi, est très, très importante, bien sûr, parce que la lumière, c'est tout dans la vie, je pense. C'est la lumière intérieure qu'on doit suivre. C'est la lumière de la ville, du pays où je vis. Mm-hmm. C'est la lumière qui est le côté sain versus le côté noir, quoi. Mm-hmm. Voilà, donc c'est un peu, je dirais, c'est entre le spirituel et le physique. C'est pour moi, louche, c'est la lumière, c'est tout. Mmh. C'est tout. Donc voilà, au départ, c'est un peu un clin d'œil à un éveil, à un nouvel éveil chez moi, qui correspondait à un désir de mettre en lumière aussi cette culture portugaise, quoi. Voilà.
Donc c'est ça.
C'est comme ça que l'aventure est un petit peu partie dans ma tête.
Donc voilà. Donc en fait, toi, tu remets, en tout cas, tu retrouves des photos.
Voilà.
Qui explique l'histoire du Portugal.
En fait, voilà, au départ, le projet est né parce que j'ai découvert un monsieur qui s'appelle Arthur Pastor, qui n'était pas photographe, c'était un ingénieur agronome qui avait un poste à Lisbonne. Enfin, il a peut-être fait plusieurs villes, mais en tout cas, il était dépêché dans tout le pays pour faire une analyse sur les traditions et les cultures du Portugal, analyser comment les gens travaillaient, ce qu'ils faisaient. Et ce monsieur avait la passion de la photographie. Donc, en fait, il voyageait avec son Rolleiflex et il documentait tout ce qu'il voyait. Et donc, ça fait des milliers de photos à la fin d'une vie, je dirais. Des milliers de photos magnifiques parce que on peut photographier mais ne rien transmettre. Or lui, il a transmis une certaine magie, poésie de tout ce qui était le plus basique, on va dire entre guillemets, qui est l'agriculture. Il a su transmettre une magie entre. Il a su se fondre dans la vie, dans le moment qu'il photographiait. Et ça se sent dans toutes ces photos, c'est-à-dire qu'on sent l'émotion, on sent la présence de ces gens. Quand on regarde les photos, on a l'impression d'être nous aussi au milieu. Mmh. Et sans compter sa perfection photographique, c'est-à-dire la lumière, toute la mise en scène, tout ce qu'il faisait, parce que rien n'était posé. Donc ce sont vraiment des photos de reportage. Moi, j'ai été subjuguée. Et en fait, je me suis dit, c'est incroyable qu'on ait quelqu'un comme lui qui a tellement fait, sans le vouloir, pour laisser une trace du Portugal, et que finalement, il n'ait jamais réussi à dépasser peut-être les frontières. Et puis, les Portugais le connaissent très peu. Il y a très peu de gens qui connaissent son œuvre. Donc, je me suis dit, il faudrait quand même trouver une façon de ramener un peu ce Portugal qui me rappelait mon enfance, parce que comme je vais rappeler juste une chose, le Portugal est resté 40 ans en dictature. Donc, en fait, pendant 40 ans, le Portugal était congelé dans le temps, vraiment. Donc, les photos que j'utilise sont des photos des années 50-60. Et moi, j'ai commencé à venir donc mon enfance pendant les années 70. Les trois quarts des photos que je vois correspondent encore à des souvenirs que j'avais de mon enfance. Donc, ça prouve que le Portugal n'avait vraiment pas évolué beaucoup. Mmh. Et surtout, bon, la dictature s'est finie en 74. Donc, c'est tard. Et si un Français prenait cette photo entre les mains, l'une des photos, il pourrait se dire, en France, ça correspondrait à la fin du siècle passé. Or, au Portugal, c'était les années 50, 60, et en 70, on voyait encore les barques de pêcheurs sur les plages, on voyait encore les gens dans les champs avec des carrioles, on voyait encore les gens sur des ados de bourricots, voilà, des choses très, très,
très, simple,
très
simple.
Anciennes et simples, voilà. Ouais,
ouais. Et en quoi c'est important pour toi, quelque part, de faire revivre cette histoire du Portugal ? Pour laisser une trace ?
Non, c'était important juste parce qu'à l'époque, en fait, j'étais un peu... on était inondé de tourisme, comme tous les pays, bien sûr. Et j'avais la sensation que dans l'offre qu'on faisait, notamment aux touristes, mais pas que, il y a quand même beaucoup de clichés. On est débordé de clichés à l'heure actuelle sur le Portugal. Donc, on a toujours la petite hirondelle qui revient à outrance. On a toujours les sardines, bien sûr, le coq. Bon, à un moment donné, j'ai envie de dire, le Portugal, ce n'est pas que ça, quoi. Il faut arrêter, il faut dépasser tout ça. Et je le dis aussi pour les Portugais, qui sont les premiers à devoir transmettre une image de leur pays. Hein. Je le dis pas que pour les gens qui achètent, parce que les gens, ils prennent ce qu'on leur offre. Donc, à ce moment-là, moi, je me dis, quand même, c'est fou. L'offre, c'est toujours la même. On n'évolue pas tant que ça. Hein. Ils ramènent des choses chez eux qui ne transmettent pas vraiment ce qu'est le Portugal. Parce que, OK, tu mets une hirondelle sur un mur, c'est sympa, mais voilà, quoi. N'importe qui... une personne qui rentre chez toi et qui voit une hirondelle sur le mur ne va pas forcément te demander d'où ça vient. Voilà.
Oui, bien sûr.
Et moi, je me suis dit, avec ces photos, réinterpréter ces photos, c'est ramener vraiment quelque chose de portugais dans le sens, ramener un bout d'histoire, ramener un peuple chez soi, ramener une émotion aussi, parce que je pense que quand tu achètes un de ces linges que je fais, tu ramènes une émotion que tu ressens. Tu es subjugué par la photo, déjà, au départ. Et c'était tout ça que j'avais envie de communiquer. J'avais envie que les gens ramènent quelque chose et que, justement, quand ils l'accrochent à leur mur, quelqu'un qui rentre chez eux dise « Oh, c'est magnifique, c'est quoi, ça vient d'où, ça représente quoi ?» Voilà, j'avais envie vraiment de communiquer quelque chose qui soit la vraie nature, l'origine du peuple et la fierté du peuple, parce que on est finalement des pêcheurs, des agriculteurs, tous nous avons cette souche, tous nos membres viennent de ces origines-là, quoi.
Et pourquoi tu as choisi en tout cas au départ les supports comme le torchon?
Maintenant je préfère l'appeler un linge ou une tenture, oui, parce que finalement, même si moi j'ai été la première à me dire bon, finalement ça peut être un joli torchon, les gens me disaient non, en aucune manière, parce que c'est trop beau pour l'utiliser comme ça. Moi, le départ de l'aventure, c'était comment je peux réinterpréter la photo sans être trop évidente dans ma démarche, c'est-à-dire je ne veux pas faire de poster, je ne voulais pas faire un poster ou en tout cas un livre ou quelque chose comme ça. C'était pas ma place et c'était pas ce que je voulais transmettre non plus. Donc, j'ai commencé à réfléchir comment je peux donner une deuxième vie à la photo, et j'ai pensé à l'impression sur tissu parce que ça me semblait être une belle démarche. J'ai pensé à la sérigraphie parce que la sérigraphie, c'est un principe d'impression qui est très très, qui est manuel et qui est très très comment dire, il est basique, manuel, donc on ne peut pas travailler de la même façon la photo, et ça lui donne un aspect très vintage, mais surtout un aspect très, très honnête, très, très direct, parce que ce n'est pas parfait. La sérigraphie n'est pas parfaite. Mmh. Et puis, dans ma démarche, je voulais aussi être écologique, c'est-à-dire je ne voulais pas juste mettre un produit de plus sur le marché. Donc, le choix du tissu, ça a été le lin, parce que ça a permis de c'est un tissu qui demande très, très peu d'eau. Un tissu qui est noble pour tout ce qui est un peu mettre en avant quelque chose. Je trouve que le lin est plus noble que beaucoup d'autres tissus. Et pour la sérigraphie, j'utilise bien sûr des encres à base d'eau. Mm-hmm. Parce que si vraiment quelqu'un veut utiliser le linge comme un torchon au quotidien, il n'y a pas de risque, c'est simple. Mm-hmm. Donc voilà, il y a eu toute cette démarche. En fait, au départ, autour du projet, de comment l'interpréter, de comment rester fidèle un peu à l'image, mais aussi ne pas rester juste, ne pas la figer dans ce qu'elle est, quoi, la faire vivre.
Et alors, sur quoi tu te bases pour aller chercher tes artisans qui font ça? Qu'est-ce qui fait que tu en prends plus un qu'un autre?
Alors, déjà, c'est un... je dirais, au départ, c'est un petit chemin de croix quand même. C'est-à-dire que, de toute façon, vu ma taille, vu la personne que je suis, je n'aurais jamais pu être dans l'industriel, mais ce n'était pas de ma démarche. Mais soyons clairs, déjà rien que pour acheter un rouleau de lin, c'est déjà un challenge pour des gens petits. Parce que, bien sûr, on n'a pas envie de travailler sur 500 mètres de lin d'un coup. Quoi. On n'a pas la structure. Donc après, une fois que j'ai compris qu'effectivement, toute ma structure allait être faite à une petite échelle, j'ai commencé à étudier où étaient où se situaient les sérigraphes du pays, comment je pouvais trouver un atelier de couture. J'ai eu aussi beaucoup de bouche à oreille, parce qu'il faut quand même le dire, Portugal est un pays de bouche à oreille. Mmh. Donc j'ai beaucoup cette aide, ces suggestions entre
l'artisan.
Je trouvais un artisan qui me recommandait quelqu'un d'autre et vice versa. Voilà, j'ai eu beaucoup ça. Donc j'ai fait un peu j'ai fait un peu mon chemin en découvrant, en apprenant aussi. C'est-à-dire que j'ai choisi pour la mise au point des photos sur les textiles, j'ai choisi une personne excellente, qui a un background artistique, parce que quand même, je pense que c'est important quand il s'agit de photos. Elle a par elle-même une certaine affinité à la photo et à la finalité que je veux transmettre. Alors que si c'était quelqu'un qui était juste sérigraphe ou qui s'oriente plus sur l'illustration, par exemple, ça, c'était moins évident. Ensuite, pour l'atelier de couture, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui est d'origine française, c'est-à-dire qui a une mère française et qui est née ici et qui est très, très, je dirais, qui est très comme moi, c'est-à-dire 55 ans. Et elle a pour le travail cette énergie française que j'adore, c'est-à-dire très réactive, très... elle dépasse toujours les limitations, elle trouve les solutions, et ça, c'est vraiment génial, quoi. Là-dessus, on se fait vraiment écho. Et je me sens vraiment appuyée et aidée. Après, c'est vrai que des fois, j'ai dû retrouver un deuxième sérigraphe parce que je me suis aperçue qu'après, il y a toujours les limitations liées aux artisans. C'est-à-dire qu'un artisan, il a son rythme. Il a son rythme, ses projets. C'est quelqu'un qui n'est pas commandé en soi. Voilà, je dirais qu'un artisan, contrairement à une industrie, c'est quelqu'un qui va faire les choses d'abord pour lui. Dans le sens où, oui, il a besoin de gagner sa vie, mais d'abord, il se laisse aussi beaucoup guider par les choses qui le touchent. Et en fait, la personne avec qui je travaillais, elle a toujours, bien sûr, un enfant. Et parfois, elle ne pouvait pas accompagner le rythme. Donc, très vite, je me suis dit, il faut que j'ai un backup, quoi. Parce que si vraiment les choses explosent, il faut que je puisse répondre à la demande, quoi. Donc voilà, j'ai eu un peu... On est obligé un peu de broder toujours avec les artisans. On a toujours... On a toujours des délais qui ne sont pas tenus, je dirais. On a toujours des aléas. On a, c'est vraiment un acte de foi de travailler avec des artisans. Après, pour moi, c'est très, très important de les faire vivre et de les... et que leur savoir-faire continue.
Oui, parce que de plus en plus de monde maintenant attache une importance à faire produire local. Oui. Et donc, ah, c'est dans ta démarche, quoi.
Oui, moi, ma démarche, c'est très simple. Je voulais transmettre quelque chose de portugais. Je voulais une continuité. Je voulais que mon produit, au départ, ait une signification qui est la transmission de la culture portugaise, la transmission de l'âme portugaise. Donc, pour moi, c'était évident que je n'allais pas aller acheter mon lin à l'extérieur, en Chine, que je n'allais pas faire mon produit, fabriquer mon produit même en France, alors que, voilà, j'aurais eu peut-être des facilités. C'était important que j'essaye de faire vivre ce produit aussi avec les gens qui vivent ici. C'est, pour moi, c'était la base. C'était la base. Parce que, soyons clairs, je ne me suis jamais dit je vais m'enrichir. Je veux faire un projet qui me ressemble et je veux qu'il réussisse. Mais mon but, ce n'est pas non plus de me dire ma marge, ma marge, ma marge. J'ai trop vécu là-dedans. J'ai vécu dans le monde corporel. Donc, ce n'est pas ce que j'ai envie aujourd'hui de faire. Je n'ai pas envie d'arrondir tous les angles possibles pour me dire je veux gagner chaque fois plus, quoi. Non, c'est pas ma démarche actuelle et j'espère que ça ne le deviendra pas non plus. Le seul souci que j'ai, c'est effectivement faire fonctionner les choses, les rendre encastrer tous ces gens qui ont leur propre ego, leur propre savoir-faire, leur propre routine. Et ça, des fois, c'est un défi. Oui, je dirais que le grand défi, c'est surtout ça. Ouais.
Ouais, c'est ça, j'ai posé la question, ton plus gros challenge dans cette aventure, c'est ça, c'est de faire tout coïncider.
Oui, oui, vraiment, vraiment. C'est un peu comme, c'est faire tout coïncider. Et aussi au niveau du consommateur, de vraiment l'éduquer sur ça, c'est-à-dire l'éduquer sur le fait que des fois, il faut attendre 2 jours, ou l'éduquer aussi sur le fait qu'une assiette faite par une céramiste... n'est pas une assiette industrielle, donc oui, elle peut ne pas être pareille que l'autre assiette. Elle va pas forcément avoir la même teinte, hein. Mais ça, c'est ce qui donne la force de l'objet. C'est-à-dire que cet objet va transmettre encore plus la main, il va montrer la main de l'auteur, et en plus, il va aussi être un objet unique. C'est quoi l'intérêt d'avoir 10 assiettes on a tous un service IKEA, mais j'ai envie de dire, quand on reçoit, c'est quoi la signification d'avoir tous la même vaisselle, d'avoir tous les objets parfaits qui ne transpirent rien, quoi, qui n'évoquent rien. Je pense que l'heure est venue vraiment de se dire tous... qu'est-ce qu'on a envie de quoi on a envie de s'entourer, de quoi on a envie de qu'est-ce qu'on a envie de faire vivre comme industrie aussi ou comme monde.
Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi maintenant que tu es passé du côté de l'entrepreneuriat?
Ouh là là. D'abord, j'ai pas eu besoin de passer du côté de l'entrepreneuriat pour le savoir. C'est que moi, j'ai toujours eu besoin de beaucoup de cadrage. Donc, ça me fait très bizarre d'être un électron libre maintenant. Enfin, ça me fait bizarre d'être moi, le capitaine de mon navire, parce que j'ai vraiment toujours été quelqu'un qui aime les structures pour être recadré. Donc ça, c'est la première chose qui est un peu... Je dois aller au-delà de ma propre nature aujourd'hui. C'est-à-dire me dire, bon, allez, je vis de to-do list, quoi. En fait, c'est un peu ça, quoi. Tous les soirs, je fais mes to-do list pour être sûre que je ne vais pas m'éloigner de ce que je dois faire, quoi. Et puis... La remise en question aussi, parce que quand on est, quand on fait quelque chose, on pense qu'on fait forcément bien et on n'est pas toujours dans l'analyse du produit, dans l'analyse de ce qui va devenir. Mmh. Et en fait, moi, mon premier, on va dire, le premier à analyser avec moi, c'est mon mari. Et lui, il a été le premier à montrer tous les défauts. Je vais dire, c'est un peu comme ça. C'est lui, il est bien sûr beaucoup plus factuel. Donc, tout de suite, il a soulevé toutes les limitations, tout ce qu'il fallait changer. Et lui, ça a été le premier à vraiment me dire le mot torchon, il faut l'abolir. C'est ridicule. C'est trop péjoratif, c'est diminutif. Il faut passer à autre chose, quoi. Et au début, j'avais du mal parce que je ne voyais pas tant que ça le problème. Et après, je me suis dit, oui, effectivement, il a raison parce que on sait très bien que le nom qu'on donne aux choses influe déjà sur le prix qu'on veut payer, sur la place qu'on veut lui donner. Donc, on a même une expression en français qui est « on ne mélange pas les serviettes et les torchons ». Donc, dès le départ, voilà, c'était évident que son commentaire, enfin, en tout cas, son opinion était très juste et j'ai mis du temps à m'aligner sur ça. Donc, voilà, il y a beaucoup de remises en question perpétuelles. Et puis, à l'heure actuelle, je dirais que ce qui me manque beaucoup, c'est l'interaction, en fait. Je suis arrivée à une phase où je me sens trop seule dans mon projet. Et là je vais commencer à recruter parce que j'ai vraiment besoin d'interaction. J'ai vraiment besoin de cette remise en question. J'ai besoin aussi d'avoir quelqu'un de plus jeune parce que je pense que les jeunes ont une énergie et une vision que nous, on n'a pas toujours, enfin... Voilà, surtout, ils connaissent tellement plus de choses que nous à l'heure actuelle sur tout ce qui est la nouvelle tech, les nouveaux réseaux, tout ça, que c'est génial d'avoir quelqu'un qui puisse faire cette partie où nous, on est moins à l'aise au final. Voilà.
Mais ce que je trouve joli, c'est qu'aussi, voilà, t'es aussi un exemple pour dire on peut entreprendre à 50 ans.
Ouais,
c'est pas un obstacle.
Ah, mais complètement. Moi, je dis, si dans 10 ans, je dois me réinventer, je me réinvente. Hein. J'ai surtout cette vision de moi. Comme j'ai dit, je suis très cyclique, moi. Donc, j'ai cette vision où la vie ne peut pas être un long fleuve tranquille, en fait. Parce que je dirais que même à l'heure actuelle sur le Portugal, que j'adore, des fois, je me dis, c'est trop calme, presque, maintenant. Maintenant que j'y vis depuis un certain temps, je me dis, j'aimerais bien que ça s'accélère un petit peu plus. Donc, ça le fait, chaque fois plus, parce qu'on a chaque fois plus aussi des résidents étrangers qui donnent un nouveau rythme à la ville et au pays. Mais oui, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se réinventer. Et surtout, l'âge, on a beau le dire, mais l'âge, il est surtout dans la tête, mais surtout... nos capacités évoluent aussi. J'aurais peut-être jamais osé faire quelque chose comme ça, moi, à 20 ans. J'admire tous les gens qui, à 20 ans, dans leur vingtaine, savent déjà qu'ils ne vont pas travailler pour quelqu'un d'autre et qu'ils vont lancer leur projet. Moi, j'avoue que moi, à 20 ans, j'aurais été incapable de faire ça. C'est un chemin, en fait.
C'était une autre époque.
Ouais. Et puis on n'est pas tous identiques, donc on doit tous faire notre chemin à notre vitesse et pour cela, je dis non, c'est pas tard, 50 ans, parce que ça correspond aussi à un ras-le-bol de quelque chose. Donc, quand on a un ras-le-bol de quelque chose, il faut écrire une nouvelle histoire, écrire une nouvelle page.
Tout à fait raison. Paula, pour terminer cet entretien, cette petite conversation, je vais te poser des questions tac au tac. Tu essaies de répondre au plus vite possible, d'accord? Alors, ton mot préféré en portugais?
Ouf, c'est dur, il y en a plein, mais je vais dire l'un de mes mots alors, parce que c'est plus simple. Je vais dire esperança plutôt que saudade, parce que saudade est trop galvanisée maintenant.
Donc, d'accord. Ton mot préféré en français?
C'est dur. Merci. J'aime beaucoup, merci. Je trouve que c'est joli.
Si tu avais un conseil à partager?
Je dirais... franchement, le conseil, c'est vraiment croire en soi, croire au monde, croire au lendemain. Voilà. Vraiment.
Être indépendante ou salariée?
Ah bah, les deux sont bien. Hein. Si moi, on m'offrait demain un méga poste, peut-être que je replongerais. Mais voilà, je dirais que ce n'est pas les mêmes défis. Donc, les deux ont leurs avantages. Donc, voilà. Okay.
Et pour toi, The Musette, c'est
C'est une super communauté. C'est un peu les Woman Power. Ce que j'aime bien aussi, et c'est un grand soutien, je dirais. C'est un encouragement de tous les jours et un grand soutien.
Merci beaucoup, Paula, d'avoir partagé ton histoire, ta vision de la vie.
Merci à toi, Adeline. C'était très, très sympa d'échanger.
Bah, écoute, merci. Et puis voilà, on sent que tu as une histoire sincère, touchante derrière ton projet. Donc, on te souhaite une belle aventure avec Loose Édition.
Merci
à bientôt.
Beaucoup. Merci, à bientôt.
Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'expatpreneurs.